Le Seigneur, il m'a donné ce thème il y a déjà quelques semaines. Et vous ne savez peut-être pas, mais quand on doit prêcher quelque chose, on doit d'abord le vivre pour pouvoir le prêcher avec autorité. Sinon, c'est que des mots. Hein. Donc, j'ai beaucoup aimé ce matin le passage du psaume 23. Hein. Certains savent pourquoi. Et dans le psaume 23, il y a la paix aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ça, ça nous apaise. Il me fait reposer. Le repos, c'est aussi la paix. Dans de verts pâturages. Et on va peut-être prendre un petit temps à la fin pour aller dans les verts pâturages, si vous êtes d'accord. Il me dirige près des eaux paisibles. Et les eaux paisibles, c'est la paix. Et il restaure mon âme à cet endroit-là. Donc, je ne vais pas faire un message sur les eaux paisibles, mais sur la paix en général. Et j'avais ce matin aussi Jean 14. Je vous laisse ma paix, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus donne sa paix, il est le prince de paix. C'est une puissance. C'est quelque chose qui renverse tout ce qui vient contre cette paix. Et je ne veux vraiment pas juste parler avec des mots. Je prie, et Seigneur, je te demande de venir aussi déverser ta paix dans ce lieu. Tu es déjà là, ta présence est déjà manifeste. Ces chants étaient vraiment orientés vers cette paix aussi et vers ta sainteté. Et je veux vraiment parler de ce lieu-là. Et que ta paix puisse faire son travail, son œuvre dans nos cœurs. Alors oui, le Seigneur, il veut prendre soin de nous. Et prendre soin, ça a plusieurs implications. Je vais pas refaire toute l'histoire du berger qui induit la tête des brebis pour qu'elles soient pas embêtées par les mouches, etc. Mais vous connaissez ça. Et vous savez que j'aime oindre les têtes de plusieurs manières différentes, et en particulier demander le baume de guérison. Et j'aime justement dans les entretiens voir comment le Seigneur conduit chaque brebis à recevoir son onction, son huile de guérison. Et on revient d'un week-end à Annecy avec une petite troupe, donc il y a 2 semaines, et le thème de la rencontre, c'était la réconciliation. Et cette réconciliation, elle est d'abord avec Dieu, et ça, c'est une première onction de guérison qui vient sur nos cœurs, hein, parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Et à Annecy, il y a aussi ils ont creusé ce puits de la guérison intérieure. Ils ont creusé, ils ont cherché, ils se sont formés aussi. Et on vous ramène tout ça. On veut aussi le creuser ici. Et pendant que j'étais à Annecy, mon cher mari a prêché sur Habacuc. Et j'ai écouté son message, j'ai fait mes devoirs, et il était hyper prophétique, comme d'habitude, et il a parlé de Babylone. Et en fait, Babylone, on voit que Babylone est encore active autour de nous, hein. Et nous, on est censé sortir de Babylone, on est censé être sorti de Babylone. Et parfois, c'est comme le peuple dans le désert, il est sorti sous la domination de Pharaon, il est sorti de l'esclavage, mais pendant 40 ans, il y a eu besoin que l'esclavage sorte d'Israël, du peuple d'Israël. Et parfois, il y a besoin de ce temps. Et parfois, il y a besoin de tourner. On a l'impression qu'on tourne en rond, mais parce que le Seigneur, il utilise ce temps où on tourne en rond pour faire sortir Babylone, l'esclavage, de nous, de nos vies. Donc, il a prophétisé des secousses. Bon, il ne faut pas être un grand prophète pour le savoir. Avec tout ce qui va se passer en France l'année prochaine, avec les élections, etc., oui, il y aura forcément des secousses. On peut prier qu'elles soient les moindres possibles, hein, parce que ça peut aussi s'enflammer, mais on a une arme puissante qui est la prière. La prière du juste est une grande efficacité, n'est-ce pas ? On tient sur ces vérités. On voit aussi les jugements du Seigneur déjà tout cet été qui a été très chaud, hein, dans tous les sens du terme. Et on ne s'appelle pas Josué par hasard. Alors bien sûr, on est des guerriers dans la prière, oui, et on est aussi des sacrificateurs. Et j'ai reçu ce matin, il y a quelques jours, de nouveau le passage préféré d'Anne. Devine. Zacharie 3. Ah oui, t'en as tellement d'autres. Zacharie 3, Josué, le grand sacrificateur qui est là avec ses vêtements sales. Et c'est comme si le Seigneur me donnait encore une confirmation qu'il veut nous enlever nos vêtements sales et nous revêtir d'habits de louange et de fête. Voilà pour le programme de ce matin, vous êtes d'accord? Donc le but, évidemment, c'est d'expérimenter le shalom de Dieu. Alors le mot shalom, il est très vaste, je ne vais pas prétendre faire une étude sur le mot shalom, ça je le laisserai à Agnès. Mais c'est vraiment un mot énorme, il désigne la plénitude totale. Donc déjà plénitude, c'est déjà une totalité, mais ouais, plénitude totale, un bien-être complet, une paix profonde. Et ça englobe tous les aspects de la vie. C'est pas juste oui, je suis en paix, ça va, tout va bien dans ma vie. Non, c'est que même en temps de guerre, on demande comment va le shalom de la guerre. En fait, parce qu'il est aussi synonyme de succès. Est-ce que la guerre est dans le succès? Et donc on sait que Dieu est un des noms de Dieu, c'est Yahweh Shalom, le Dieu de paix. Le Seigneur de la paix, et Jésus est appelé le Prince de la paix, ça c'est dans Ésaïe 9, 6. On pourrait étudier ce mot pendant des heures, et je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Je peux regarder à quelle heure j'ai commencé, mais il faut que je fasse attention à la montre. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'en fait, le sens premier de ce mot, c'est ce qui est en bon état. Et shalom, ça veut dire qui est en bon état, qui est complet, qui est saint, S-A-I-N, entier. Solide. Et le verbe shalom, dont vient le mot shalom, signifie rendre, restituer, dans le sens même de dédommager. Donc il y a une idée de rédemption que je n'avais pas vue au départ, mais qui en fait qui est contenue dans ce mot, et ça me plaît beaucoup. Donc c'est l'absence de manque, l'absence de cassure, l'absence de oui, de brisure. Il n'y a rien qui est brisé. Il est en bon état, il est complet. Et c'est donc aussi synonyme de succès. Et donc, quand on va en Israël, et ben on se dit bonjour en disant shalom. On dit même au revoir en disant shalom. Et le samedi, c'est Shabbat shalom. C'est le shalom du sabbat, le shalom de cette journée de repos. Donc, c'est double shalom. Parce que le samedi, c'est un jour de repos. Donc, vous voyez que c'est un mot qui a un sens très fort et on va pas pouvoir l'étudier en long, en large et en travers aujourd'hui, mais ayez dans la tête le fait que c'est un mot profond qui a une puissance en lui-même. Parce que le Seigneur est le Seigneur du Shalom. Et il y a une harmonie qui est contenue aussi dans ce mot, une harmonie pour la vie en totalité. Et donc il y a un certain nombre d'occurrences dans la Bible, alors j'avais même regardé, 207 versets qui parlent du mot shalom et 106 juste du verbe shalom. Donc voilà. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir dans le grec aussi, des formations professionnelles. Je regarde ma fille parce qu'elle est en train de suivre mes traces. Elle est en lettres classiques depuis quelques jours. Vous pouvez l'applaudir. Bah ouais, je n'ai même rien dit en plus. Hein. Elle a choisi toute seule ses études, donc je suis très fière. Donc en grec, est-ce que tu connais le sens du mot paix? T'as pas encore appris? C'est Eirénée, le prénom Irène. Irène vient de là, ou Irénée même. Il vient de Eirénée, qui signifie paix en grec. Et c'est aussi la déesse de la paix, évidemment, puisque tout est déifié dans le panthéon grec. Et c'est exactement le même sens, hein, c'est un état de tranquillité, de paix, de complétude, de sécurité aussi et de prospérité, parce que quand il y a la paix, ben, on peut faire du commerce, n'est-ce pas? Et avec bien sûr le sens de paix de Dieu, de paix du Messie dans le Nouveau Testament. Donc c'est un sens très très proche. J'ai l'impression qu'il n'est pas aussi profond que le sens hébreu, évidemment. Dès qu'on traduit un mot, eh ben c'est un petit peu différent. Et il se trouve dans 85 versets du Nouveau Testament quand même. Hein. Et en creusant un petit peu ce mot, je me suis dit qu'il y a un élément dans la pensée philosophique grecque qui pourrait faire, qui ressemble en fait à cette paix et qui est un peu une sorte de mirage, d'illusion. Alors je ne vais pas vous faire un cours de philo, même si depuis peu je redémarre la philo à l'établissement Daniel. Alors, petit aparté, l'établissement Daniel, on a commencé par citer le psaume 23 et à se l'approprier en disant nous, en début d'année, en pré-rentrée. Donc, on est vraiment connectés. Donc, c'était beau. Et puis, on a fait une super randonnée aussi sur les lieux élevés. C'était pas prévu d'être le parcours du combattant comme ça l'a été parce qu'on s'est trompé de chemin. Mais je me suis dit, il y a un truc prophétique là avec les secousses qui nous viennent. Mais on a tous réussi, on est tous passés, on l'a fait. Donc, on va s'attendre à quoi cette année, je ne sais pas. Mais voilà, on a réussi, on est passé à travers. Hein. Donc, tout ça pour en revenir à la paix. On a gardé notre paix malgré tout, puis on a traversé. Et même la joie qui est venue, surtout le soulagement à la fin, vous pouvez imaginer. Et dans la philosophie grecque, donc pour en revenir à ce que je disais, il y a un terme, un concept qui recherche cette paix par soi-même. Alors, pour ceux qui ont fait de la philo il n'y a pas si longtemps, ça doit vous rappeler des cauchemars. C'est l'ataraxie. Donc c'est un terme grec qui signifie absence de trouble. Et c'est une notion qui apparaît donc chez les pré-socratiques aussi, qui est là pour qui donne un objectif pour atteindre le bonheur. Donc le but c'est le bonheur. Mais de quelle manière? Bah c'est rechercher cette paix malgré les circonstances qui nous environnent. Donc ça on pourrait dire c'est bon, mais en fait c'est par soi-même, quoi, par ses propres forces, par sa raison, par le fait de pouvoir distinguer entre ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, ce qui doit nous affecter, ce qui ne doit pas nous affecter. Vous avez compris le principe, c'est que rien ne doit nous affecter. Ni trop de passion, ni trop de bonheur, parce que le bonheur, c'est pas vraiment, c'est pas l'exultation, hein, c'est un bonheur simple et paisible chez les Grecs, et encore moins de tristesse. Donc on veut éviter la tristesse, on veut éviter la souffrance, et évidemment c'est là que ça devient pas biblique, c'est que Jésus nous a jamais promis d'être sans souffrance. Par contre, il a dit qu'il serait là avec nous et qu'il nous aiderait à traverser. Donc, dans la philosophie grecque, l'objectif du sage, c'est de se détacher le plus possible de tout ce qui ne dépend pas de lui, de tout ce qui est annexe, on va dire, et de se concentrer un peu sur sa quiétude intérieure. Et du coup, vous pouvez imaginer que ce détachement amène à l'indifférence. Ça peut aussi amener à un fatalisme, puisque du coup, je ne vais pas m'occuper des circonstances extérieures. Donc, finalement, soit elles n'existent pas, indifférence ou déni, soit c'est comme ça, c'est pas autrement, je peux rien faire. Et quand on pousse le fatalisme à son extrême, on devient cynique, parce qu'en fait on subit les choses de la vie, on subit les événements et on peut rien y faire, on devient impuissant et on peut devenir du coup cynique. Donc je vais pas vous faire un cours de philo. Mais tout ça pour dire que quand on regarde les mots et le sens des mots, on voit aussi que égrener la paix, elle peut, dans notre inconscient collectif et catholique aussi, être substituée par l'ataraxie. Et que finalement, il ne faut pas confondre le shalom de Dieu, qui est une puissance qui agit, qui est en mouvement, qui est une présence de cette quiétude et de cette paix désincarnée. Nous ne sommes que des esprits, nous nageons au-dessus des circonstances. Non. Ça, c'est une idée qui est anti-biblique. La paix profonde, elle est paix à l'intérieur même de nos circonstances, même des circonstances qu'on voudrait éviter. Nous, on aimerait éviter l'épreuve. À un moment donné, je disais au Seigneur, oui, je te remercie pour ta fidélité. Il a été tellement fidèle. Cet été, il nous a montré sa fidélité, notamment avec l'anniversaire d'Elisa qui s'est passé exactement comme je l'avais souhaité. Et il m'a montré tellement sa fidélité. Quand est venue l'épreuve, on est tombé en panne sur le chemin des vacances. C'était vraiment pas le moment. Mais quand est venue l'épreuve, alors j'avoue, j'ai pas gardé mon shalom à fond, hein, j'ai dû demander pardon aux enfants de m'être énervée. Mais je savais, j'étais là, Seigneur, en même temps que j'étais en train de m'énerver, j'étais en train de dire, Seigneur, je compte sur ta fidélité, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Tu nous l'as montré tellement de fois, tu es fidèle, tu es fidèle. Et évidemment, Ensuite, il nous a montré le chemin pour sortir de cette épreuve. Et juste avant que ça arrive, j'étais là en train de dire, Seigneur, c'est vrai que je peux te louer pour ta fidélité quand tout va bien. Presque j'étais là en train de dire, mais il faudrait que ce soit aussi vrai quand tout va pas bien. Et je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait cette prière? Pourquoi j'ai pensé ça même? Juste, tout va bien et c'est bien que ça aille bien. Mais même quand ça va pas bien, il est là, il est là. Il est avec nous, il est dans notre circonstance, même si elle n'est pas facile. Et on l'a expérimenté aussi, et je peux le dire aussi, on peut trouver la paix, on peut trouver son shalom qui est en mouvement dans ces temps où c'est pas facile pour nous, où on a l'impression d'être dans la fournaise. Et là, concrètement, avec la canicule, on avait chaud. Mais je sentais que le Seigneur, il était là, il nous lâchait pas. À un moment donné, on était coincés, on savait pas quelle décision prendre. Alors, je vous passe tous les détails de ce qui nous est arrivé, mais je pourrais écrire un roman. Parce que, à chaque petite étape, on a vu la main de Dieu. Et à un moment donné, on était coincés, on se sentait coincés. J'étais là, Seigneur, mais au secours, quoi. Et comme par hasard, il y a ma mère qui appelle à ce moment-là, quelques secondes après, le « Au secours Seigneur !» Et donc je lui explique, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas si on va être remboursé de l'assurance, c'est un casse-tête, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de plus raisonnable à faire. Puis ma mère, elle a dit « D'accord, j'ai déjà prié, mais je vais continuer de prier. » Puis ma mère, c'est une guerrière dans la prière. Et du coup, quelques minutes après, on trouve une solution pour passer à l'étape suivante, aller donc trouver un garage qui voulait bien nous prendre en plein milieu du mois d'août, enfin bon, bref, le truc improbable puisque tout le monde part en vacances, hein, voilà. Et donc c'est même quand nous on sait pas, même quand nous on n'y arrive plus, qu'on a perdu notre paix, on sait plus quoi faire, on est coincé, ben, le Seigneur il nous apporte une solution. Il y a quelqu'un qui appelle, il y a les intercesseurs qui prient, il y a Huguette qui déclare que le Seigneur, il ferait une voie là où il n'y en a pas, et c'était ce qui s'est passé. Je veux dire, on n'est pas tout seul, et plus jamais je pars, même juste pour un week-end, sans demander aux intercesseurs de prier. Ça, c'est la leçon que je vais retenir de cette épreuve. Juste pour vous dire, pour pas minimiser ce qu'on a subi, même si Dieu était là, on est arrivé à 2h du matin, alors qu'on était censé arriver beaucoup plus tôt. Bref, ça nous a pas volé nos vacances, heureusement, mais on a dû vraiment se positionner. Et puis, il y a eu de grandes bénédictions aussi par rapport à on devait aller à Gagnères pour un camp Espérance Messianique en faveur des jeunes. Oui, je regarde encore ma fille. Et c'était pour elle qu'on a subi tout ça. Ce sera racheté, et ça l'est déjà en fait, parce qu'elle va probablement participer à un voyage pour justement aller visiter Israël, qui est sponsorisé à 80%. Donc rien que pour ça, ça valait la peine. Donc, tout ça pour dire, on préfère éviter l'épreuve, oui, mais quand on est face à l'épreuve, on sait que Jésus il est là et que son shalom il est actif. C'est juste, c'est pas simplement on se détache de nos circonstances et on essaye de trouver la paix intérieure. Non, ça c'est pas biblique. C'est Jésus qui est dans nos circonstances et la paix elle est là, elle est dans nos entrailles. Il suffit d'aller la chercher et de demander au Seigneur, mais t'es où? Et il répond. Il répond. Parce qu'on peut être calme extérieurement et n'avoir aucune paix intérieure. Ça, j'ai déjà vu des gens comme ça. Donc, on sait que le monde a besoin de cette paix. Et pas seulement de la paix entre les pays, entre les nations, mais cette paix profonde, cette paix intérieure qui bouge, qui est en mouvement et qui produit des fruits. Et donc nos armes, elles sont puissantes en Dieu, hein, la prière elle est efficace. C'est pas juste j'envoie des pensées positives dans l'univers. Hein. Voilà. Donc, par rapport à ce mot shalom, ça fait plusieurs mois que le Seigneur m'a parlé de ce shalom, et notamment grâce à Agnès qui m'a demandé, oui encore toi, qui m'a demandé, est-ce que tu ne pourrais pas trouver un nom pour les entretiens que tu fais? Parce que à Annecy, ils appellent ça entretien conduit par le Saint-Esprit, et ça explique ce que ça fait, hein, parce que le but c'est que ce soit le Saint-Esprit qui conduise l'entretien, mais c'est un peu long. Et on peut plus utiliser le mot sozo puisque on n'a plus la possibilité de le faire, mais on a quand même un certain nombre d'outils qui font le même travail. Et donc j'ai réfléchi à ça, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que tu voudrais que comme nom pour ces entretiens. Et en fait, il m'a donné le mot shalom. Et je vous propose donc des rendez-vous shalom. Mais si. Et donc, parce que le shalom, bah, c'est aussi la réconciliation. Parce que quand on fait la paix, ça passe par la réconciliation, n'est-ce pas? Donc, se réconcilier avec Dieu, venir pendant ces rendez-vous pour... parce qu'il y a parfois des parties à l'intérieur de nous qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas réconciliées avec Dieu, qui sont en colère contre Dieu. Selon ce qu'on a vécu, on parlait de traumatisme tout à l'heure, de blessures, de déceptions, ça crée des parts à l'intérieur de notre cœur qui sont blessées, qui sont traumatisées, qui sont peut-être en colère contre Dieu et qui ont besoin d'être réconciliées avec Dieu. Donc le premier shalom, c'est cette réconciliation avec Dieu. Et du coup, ben forcément, on est réconcilié avec nous-mêmes. Notre cœur, il devient un, il se réunifie au lieu d'être brisé en mille morceaux, il devient un et on se réconcilie avec nous-mêmes, avec l'identité que le Seigneur nous a donnée et qu'on a parfois laissé de côté ou qu'on n'a pas voulu endosser parce que c'était trop douloureux, trop difficile. Et donc, ça découle ensuite sur les autres et la réconciliation, elle est ensuite possible avec les autres. Donc, c'est pour ça que ce mot, finalement, il résume bien ces entretiens, cette réconciliation avec Dieu qui permet une réconciliation avec soi-même et donc avec les autres. Donc c'est bon, c'est adopté. En tout cas, c'est le Seigneur qui l'a donné. Hein. Et en fait, depuis ce moment où j'avais ce mot shalom, ces rendez-vous shalom qui étaient dans ma tête, qui n'étaient pas encore officialisés, mais maintenant ça l'est, j'ai commencé à prier le shalom sur moi-même. Et en fait, à chaque fois que je demandais le shalom de Dieu sur moi, je sentais presque physiquement, même physiquement, cette paix qui descendait. Comme ça. Et je dis, waouh ! Mais j'avais jamais prié le shalom avant, pourquoi ? Parce qu'on prie la paix, on prie la guérison, on prie... Et là, le mot lui-même, shalom, ça venait sur moi comme ça, et je le sentais physiquement, je le sentais dans mon esprit, même mon âme se calmait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer à le prier sur les autres. Et donc, mes cobayes préférés, ce sont mes enfants. Et je prie le shalom sur eux. Et moi, je sens la paix qui descend. Et ils pourront vous dire s'ils le sentent aussi. Mais je le prie pour les autres maintenant. Et en fait, ça me fait du bien parce qu'à chaque fois qu'on prie pour les autres, ben, on reçoit notre récompense. Hein. Donc, on vit le shalom, nous aussi. Mais c'est une puissance qui se déverse et qui fait ce qu'elle veut. En fait, le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec ça. C'est tellement énorme comme mot, la plénitude, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre que la plénitude ? Eh bien, le Seigneur, il fait ce qu'il a à faire avec ce mot, avec cette prière. Et donc, on est des ambassadeurs du shalom, on est des ambassadeurs de la paix et de la réconciliation. Vous savez que vous avez tous le ministère de la réconciliation ? Pas seulement ceux qui ont fait des écoles de réconciliation, mais on peut apprendre, parce qu'il faut apprendre. Donc 2 Corinthiens 5 nous dit, verset 18, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » 2 Corinthiens 5, 18. Vous êtes au chômage ? Les filles ? Ok, merci. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Jésus nous a réconciliés avec le Père, donc nous pouvons être des agents de réconciliation. Tout ça pour former un seul corps, on parle beaucoup d'unité en ce moment, et c'est un vrai sujet. Jésus nous demande d'être un, hein, comme lui il est un avec le Père. Donc on a déjà besoin de se réconcilier avec soi-même, esprit, âme et corps. Le sujet de la réconciliation avec son propre corps, c'est quelque chose, surtout pour les femmes j'ai l'impression, mais c'est quelque chose dans cette société. Il faut sortir de Babylone pour ça aussi. Hein. Et du coup, ben, quand on est réconcilié avec son propre corps, on peut être réconcilié dans le corps de Christ aussi. Donc c'est pas juste un truc, ouais, c'est pour se sentir bien, body positive et compagnie. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose de spirituel de se réconcilier avec son propre corps. Et ça, peut-être que je pourrais en parler dans un autre message, mais c'est puissant aussi. Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24... Il nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. parce que c'est pas nos propres efforts, c'est lui qui le fait. Nous, on se positionne, on est d'accord avec la parole, on tient sur ce roc qui est Jésus, et lui, il fait le reste. On a cette assurance qu'on a la paix avec Dieu, que les Grecs et les Romains n'avaient pas. Hein. Ils faisaient sans cesse des sacrifices aux dieux parce qu'ils voulaient gagner la faveur des dieux. Ils n'étaient pas sûrs que leur sacrifice était agréé. Ils étaient toujours dans cette incertitude, un peu comme les musulmans aujourd'hui. Hein. Ils font des bonnes œuvres, mais ils ne sont pas sûrs que la balance elle pèsera dans leur faveur. Donc c'est quand même une crainte, une angoisse existentielle qui est lourde à porter. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas porter cette angoisse. On est réconcilié avec Christ. Avec Jésus, avec Dieu, pardon, par le sang de Christ. Donc ça, c'est une vérité sur laquelle on s'appuie, on fonde notre vie, c'est notre roc. Et ensuite, le reste découle. Toutes les choses sont en train de devenir nouvelles. C'est un processus, il y a un certain nombre de choses qui bougent. Et donc, comme on est des ambassadeurs, on peut libérer sa paix autour de nous. Mais ça ne va peut-être pas être tout le temps reçu. Et donc, à un moment donné, quand je travaillais sur ce thème de la paix, évidemment, je me suis heurtée à Matthieu 10. Tout le monde connaît Matthieu 10 par cœur. Quand Jésus il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre », je dis « Attends, il y a un problème de traduction, quoi. Je suis allée chercher, j'ai regardé. Non, non, c'est bien Irénée, c'est bien la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix », il le dit deux fois en plus, mais l'épée. Et donc, j'ai creusé un petit peu ce Matthieu 10. Et il y a d'autres fois dans ce chapitre où le mot paix revient. Par exemple, dans Matthieu 10, verset 12, « En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. » Donc là, Jésus, il enseigne aux disciples à libérer la paix sur la maison dans laquelle ils sont accueillis. « Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. » Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc ça, c'est un signe de « je ne veux pas garder de poussière de cet endroit qui n'a pas reçu Christ ». Donc ça a l'air un peu dur comme ça, et Matthieu 10, ça a l'air un peu dur. Il y a certains passages qui sont là où, de quoi tu nous parles Jésus, pourquoi tu dis ça à tes disciples, tu veux les décourager ou tu veux faire quoi? Et en fait, en relisant Matthieu 10 et en creusant ce passage, on voit que le contexte, c'est Jésus qui envoie ses disciples après leur avoir donné le Saint-Esprit. Donc ça, c'est tout le début de Matthieu 10. Jésus envoie ses disciples deux par deux. Il les nomme aussi dans ce passage. Et il leur donne le pouvoir, verset 1, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand même. Donc il appelle ses disciples et il les envoie. Il les revêt de puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent chasser les esprits impurs et guérir les maladies et les infirmités. Donc il leur donne une grande responsabilité. Il leur donne la capacité d'agir comme lui, il l'a fait jusqu'à présent. Avant ça, ils n'étaient pas capables de chasser les démons. Et puis quand ils reviennent, ils sont tout excités. « Waouh, on a réussi à faire ça et tout. » Ils disent « Oui, oui, mais c'est pas vous, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. » Et donc, il leur donne un certain nombre d'instructions. Déjà d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël dans un premier temps. Ensuite, ils iront vers les païens, mais c'est dans un deuxième temps. Et prêcher, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ça c'est au verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Donc ça, c'est leur job, c'est leur fiche de poste. Fiche de poste de disciples. Et donc, il leur donne aussi toutes les instructions qui vont avec, qui est donc une première étape. Ensuite, il va les envoyer à nouveau, mais à un autre moment, avec d'autres instructions. Et le but, c'est de servir de témoignage, de préparer le chemin, hein. Et ils ne doivent pas être effrayés si on les mène devant les tribunaux, parce que l'Esprit du Père va parler pour eux. Donc, il leur dit tout un tas de trucs qui pourraient les effrayer, genre vous n'allez pas être reçus, vous allez peut-être même être traînés devant les tribunaux, mais ne craignez pas, verset 31. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, donc nos cheveux sont comptés sur nos têtes, les passereaux sont... Dieu s'occupe de sa création. Et ses disciples, ils ne seront pas oubliés, même s'ils vont confronter de l'adversité. Et donc, c'est dans ce contexte-là, presque on pourrait dire une préparation au ministère de délivrance. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Ils vont aller confronter les ténèbres avec la puissance de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il leur dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Parce que, évidemment, ça va provoquer des secousses. Il y a un choc de royaume, là. Et ça, on le vit. Hein. Quand on est dans un monde non chrétien, Fabrice y parlait de Babylone, il y a 2 semaines, Babylone, elle est tout autour de nous. On doit encore sortir Babylone même du milieu de l'Église. Il y a encore tout un travail pour se débarrasser en fait de ce qu'on a hérité des siècles passés et revenir à l'essentiel. Donc forcément, la paix extérieure, elle ne va pas être visible. Il va y avoir des secousses, il va y avoir des confrontations. Mais le Seigneur, il nous dit, l'épée, elle est là pour trancher. Pas juste pour accepter que ce soit le chaos, non, pour trancher. Fabrice y parlait du jusqu'à quand. Jusqu'à quand, Seigneur ? Ben, jusqu'à ce que le Seigneur décide que, ça y est, les prières maintenant, elles vont pouvoir être exaucées. Donc ça appartient au Seigneur, hein, la durée des temps, son timing, il est parfait. Hein. Mais nous, on ne doit pas juste être là et à attendre. Sinon, on ressemble aux philosophes grecs qui attendent que ça se passe et qui essayent de garder une certaine paix. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Oui, la paix, mais la paix de Dieu, pas n'importe quelle paix. Parce que ça peut provoquer, donc cette épée, ce tranchant de l'épée, il peut provoquer des divisions, malheureusement, hein, dans les familles, hein, entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, c'est pas hyper réjouissant. Mais on le vit dans nos maisons, hein. Quand on se positionne pour Christ, ben, y en a qui comprennent pas. Hein. Donc on a besoin d'amour, on a besoin de patience, on a besoin de prier justement pour qu'eux-mêmes reçoivent la révélation aussi, puisque c'est le Seigneur qui la donne. Et on essaye d'être les témoignages les plus vivants possibles pour les gens de notre famille. Et c'est pas facile. Parfois, on a juste envie de les secouer. Mais voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande. Verset 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. » Etc, etc. Donc, malgré tous les combats, les épreuves, l'adversité, on a la promesse que la paix, elle se trouve en lui. Ça, c'est dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » Donc, on a la paix avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et en lui. Vous aurez à souffrir dans le monde. Il ne nous a pas dit qu'on va éviter la souffrance. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus, il a vaincu le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les autorités des ténèbres, elles sont vaincues, elles sont jugées. Et on a cette autorité pour étendre en fait ce territoire spirituel que le Seigneur nous donne, tout territoire que ton pied foulera, je te le donne, il faut qu'on le prenne, sinon on le laisse à l'ennemi finalement, on reste passif. Donc ça se fait dans la prière évidemment, dans la proclamation, mais aussi dans la guérison. J'en reviens à mon thème favori, parce que quand on guérit son cœur, quand le Seigneur il peut agir dans nos propres traumatismes, notre propre vie, ensuite il l'élargit à notre famille, d'abord restreinte, ensuite élargie, il va toujours plus loin, notre lieu de travail, là où on a autorité, c'est là où Dieu nous place, ben, ça s'élargit au fur et à mesure que nous on est guéri, la guérison elle peut couler autour de nous, et ben, ça guérit aussi le territoire dans lequel on est, même d'un point de vue spirituel c'est très visible, entre guillemets, mais ça se voit dans le monde aussi. Il y a plein d'exemples, hein. Mais quand il y a des chrétiens qui se sont levés avec l'Esprit de Dieu, ben ils ont changé l'histoire. Ils ont changé leur territoire. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, rien que ça. Et donc ça commence par la guérison intérieure. Ça commence par nous, toujours. Nous-mêmes, notre famille, et au-delà. Et cette épée qui tranche, ben, sur le moment, on a l'impression que c'est difficile, on n'a pas envie, on trouve que c'est trop dur, que ça blesse nos sentiments. C'est, oui, parfois ça confronte. C'est pas agréable, mais c'est pour la vie, en fait. Et quand on se fait opérer, il faut trancher. Hein. À un moment donné, le scalpel, il doit passer pour pouvoir justement opérer. Puis ensuite, c'est refermé. Et la bonne nouvelle, c'est que la cicatrisation, elle est plus rapide avec le Seigneur. Donc, ce ne sera pas toujours compris. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, qui vont même nous persécuter à cause de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. L'esprit religieux, il peut être très féroce. Hein. Jésus, il a été crucifié par l'esprit religieux, et ben c'était quand même le Messie, donc on peut pas s'attendre à autre chose. Donc il faut être prêt à perdre sa vie. On l'a chanté tout à l'heure, hein, Jésus, je te suivrai quand tout va bien, oui, mais quand tout va pas trop bien aussi. C'est bien de le chanter, et de se dire, ben, finalement, est-ce que dans les moments où ça allait pas trop, où justement j'ai traversé le deuil, où j'ai traversé la déception, où j'ai senti que tout m'abandonnait, est-ce que Jésus, toi, t'étais encore là ? Oui. Même s'il n'y a plus personne, il y a Jésus. Et ça, c'est une espérance et une encre qui est indestructible. Donc j'en arrive à Zacharie 3. On va finir avec ça. Donc, on s'appelle Josué, Église Josué, parce qu'on, voilà, il y a un côté guerrier dans l'intercession. Parfois, ça crie. Parfois, le lion de Judas y rugit, et on le provoque pas. Hein, mais voilà, c'est l'expression de l'intercession. Mais on est aussi Josué, le sacrificateur. Et dans cette église, on a cultivé, il y a vraiment eu cette onction d'intercession, de sacrificature, de demander pardon pour les péchés de nos pères, de nos nations. On se tient comme des sacrificateurs sur la brèche et on voit les miracles de Dieu s'accomplir. Et là, on voit Josué qui est souverain sacrificateur dans Zacharie 3, hein, dès le verset 1. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc on sait que Satan, il est là pour nous accuser. Il est toujours en train d'accuser. C'est l'accusateur des frères. Il se plaît à faire ça. Et dans ce passage, on voit que les vêtements sales, ils représentent bien sûr les péchés, etc. Mais que Jésus, il veut lui enlever ses vêtements sales. Et il dit « Enlevez-lui les vêtements sales ». Donc on peut relire rapidement le 2, verset 2. « L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Et on a parlé de la braise qui vient toucher les lèvres. Tu peux continuer. « Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. » L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Donc l'iniquité, c'est un péché générationnel, quelque chose qui est répété, c'est pas juste un petit péché, même s'il n'y a pas de petit ou de grand, mais l'iniquité, c'est plus fort, c'est quelque chose qui est répété, qui a comme pris des droits et qui exerce ses droits. Et « Je te revais donc d'habits de fête », cette iniquité, elle peut être aussi représentée par des autels A-U-T-E-L-S, bien sûr. Et c'est des autels, en fait, qui ont été nourris. Donc là, on est dans le principe des cours célestes, hein, qui a été beaucoup creusé par Éric et Michael Péchin, qui ont fait un livre sur ce sujet, qui donne des cours aussi là-dessus. J'ai même vu que Jérémy Potin, il a fait une vidéo là-dessus. Donc, il y a des autels, en fait, qui ont été érigés à des faux dieux, que ce soit dans nos générations passées ou dans nos vies. Et ces autels, ils demandent à être servis. Donc, ils vont demander de génération en génération. C'est comme s'ils répétaient, finalement, les péchés générationnels à chaque génération pour être servis, pour être adoré, pour être révéré. Et donc, c'est Babylone, ça aussi. C'est Babylone en nous, sans que ce soit vraiment visible, hein, puisque le monde des ténèbres essaye de rester caché. Ce qui est beau, c'est que ben, rien de ce qui est caché ne doit être découvert. Hein. Le Seigneur, il nous dit, tout va venir à la lumière. Et donc, ce que je vous propose ce matin, c'est justement de demander au Seigneur, est-ce qu'il y a encore des autels cachés dans mes générations qui demandent en fait à être nourris. Et ça se voit, alors je ne veux pas induire ce que le Seigneur va vous dire, parce que c'est vraiment personnel, mais ça se voit dans des péchés qui sont récurrents et on n'arrive pas à s'en détacher. C'est quelque chose qui nous enferme, c'est comme un esclavage, et on n'arrive pas, on fait tous nos efforts, mais ça part pas, ça résiste. Et c'est pénible, c'est pénible. Et donc, c'est aussi le travail du sacrificateur de venir demander pardon pour les péchés de notre père. Alors ça, je sais que de nos pères, parce que c'est controversé, que plusieurs n'y croient pas, mais je peux vous dire que nous, on l'a expérimenté pour notre famille, et c'est vraiment un outil puissant. C'est déjà, c'est biblique, n'est-ce pas? Il y a plusieurs endroits où on parle justement de cette cour de justice céleste, hein, Dieu qui est le juste juge, Jésus qui est notre avocat. Donc, je vous renvoie aux enseignements de Eric et Michael. Ils le décrivent très bien. Il y a des passages bibliques très précis. Et dans le Sozo aussi, on avait cet outil des cours célestes. Alors ça s'appelait le tribunal céleste, et c'était un outil du Sozo avancé. Et le but, et en fait, j'y étais souvent dans ce tribunal sans savoir ce que c'était, mais c'est un lieu d'échange. Et quand on a un autel inique qui est nourri dans sa famille sans qu'on le sache, finalement, il y a aussi un lieu d'échange. Mais c'est un lieu qui est inique. C'est des échanges qui sont iniques, qui sont mauvais, qui produisent le péché dans nos vies. Et là, en fait, ben, l'échange, il est avec Jésus. Jésus qui est notre avocat, qui vient nous défendre. Lui, il a donné son sang pour que nous soyons purifiés, nous soyons acquittés. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simple. Bah oui, la puissance du pardon, elle est énorme. Plaider coupable, dire oui, je reconnais Seigneur, alors moi je suis peut-être pas responsable personnellement, mais d'une certaine manière j'ai laissé ce truc faire sans m'en rendre compte. Donc même pour les péchés inconscients, ça fonctionne. Hein. Mais plaider coupable pour tout ce qui n'a pas été aligné dans notre vie, dans notre génération, dans les générations passées. On plaide coupable et on demande pardon. Et ensuite on demande au Seigneur, c'est quoi ton verdict ? Dieu, le juste juge, quel est ton verdict? Et quand le juste juge a déclaré son verdict, il n'y a plus rien qui peut venir contre. Et ça, c'est une ferme assurance aussi que c'est bon, ça a été réglé devant Dieu. Et il y a la réconciliation qui peut couler, il y a la paix qui peut couler, ce shalom complet qui vient de... C'est réglé, c'est fait. Donc, on a vécu ça à plusieurs moments pour nous, pour notre famille, mais récemment je l'ai vécu aussi par rapport à l'Église. Et donc je veux bien un petit peu de guitare derrière si tu veux. J'avais pris un temps au parcours d'adoption pour plaider coupable par rapport à l'onction pastorale qui a... Alors il y a eu plein d'histoires dans l'histoire de l'Église Josué. Et je connais pas la moitié, mais j'en ai entendu certaines. Et il y a eu des blessures. Et en fait, ces blessures, finalement, ben, l'ennemi s'en est servi pour séparer les onctions, pour parfois les mettre en concurrence. Et ce matin, je sentais qu'il y avait appelé des coupables par rapport à l'onction prophétique qui a été séparée des autres onctions. Et quand on a commencé à prier au parcours d'adoption par rapport à l'onction pastorale, j'ai senti que, en fait, il faut que ces onctions soient pleinement réconciliées pour bien fonctionner ensemble et être la synergie et fonctionner en synergie comme le Seigneur voudrait. Et c'est pas une question d'hommes et de femmes ou de personnes, c'est vraiment une question spirituelle. L'ennemi ne veut pas qu'une église fonctionne bien. Et l'ennemi ne veut pas non plus que les différentes onctions de Éphésiens 4 fonctionnent ensemble. Parce que c'est super puissant. Si Jésus nous les a données, si Dieu a dit, bah, c'est comme ça que mon église doit fonctionner, c'est qu'il y a une raison. Et donc, on va prendre ce temps pour soi, perso. Vous allez demander au Seigneur, est-ce qu'il y a des autels iniques qui sont encore nourris dans ma vie? Et vous allez voir ce que le Seigneur vous dit. Et pour ceux qui l'ont à cœur aussi, on va prier par rapport aux onctions prophétique, apostolique, pastoral, évangéliste et enseignant. Toutes ces onctions, elles sont présentes dans cette église et elles doivent fonctionner en synergie et pas en concurrence. Et Seigneur, je te remets ce temps. Merci parce que tu nous accueilles dans tes verts pâturages, là où il n'y a pas de nuages noirs, où on peut venir près des eaux paisibles pour que tu restaures notre âme. Merci pour ton shalom qui est plein et qui est entier, Seigneur, sur nous. Merci parce que même ceux qui ne sont pas présents, ils vont pouvoir bénéficier de cette onction de shalom, de cette paix qui est plénitude, qui est puissante, qui est profonde. Merci parce que tu es le bon berger et que tu t'occupes de tes brebis. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, de réconcilier l'onction pastorale, qu'elle puisse s'exprimer pleinement et être pleinement déversée sur les brebis, Seigneur, comme on l'a vu ce matin. Et Seigneur, je veux maintenant te remettre les autres onctions qui doivent se déverser aussi pleinement dans cette église. Parce que c'est pas juste pour nous, pour dire « ouais, on est une super église », non, c'est pour le monde. C'est pour les gens qui en ont besoin. C'est pour même les brebis perdues du peuple d'Israël. Ça va bien au-delà de nous, de ce qu'on peut imaginer ou penser. Alors Seigneur, je veux te demander pardon. Je plaide coupable maintenant. En tant que responsable pour la comparaison, pour la compétition, pour le fait de vouloir avoir raison contre les autres au lieu d'avoir raison ensemble. Et Seigneur, je te demande de venir guérir cette église, d'enlever les vêtements sales encore qui restent. Merci parce que chaque onction, elle est puissante en toi et elle est complémentaire aux autres onctions. Elle n'est pas en concurrence. Alors Seigneur, pardon pour l'onction prophétique qui a pu parfois être déviée parce que Jézabel, elle ne veut pas qu'une église fonctionne dans le prophétique. Et Seigneur, maintenant, on s'humilie devant toi pour le détournement de l'onction prophétique, pour le mélange. On plaide coupable pour avoir surinterprété ou mal interprété ce que tu nous disais, pour avoir utilisé l'onction prophétique à notre propre profit, pour se servir au lieu de servir. On plaide coupable, Seigneur Jésus, parce que ton esprit prophétique, il est déversé en abondance et tu ne renies pas tes dons. Et tu nous demandes d'être dans la sainteté, d'être sur ce chemin de sainteté et de te suivre. Alors on renouvelle ce matin notre consécration devant toi. On vient plaider devant ton trône. Parce que tu es le juste juge, on sait que tu es juste. Et on te demande pardon pour toutes nos fautes, individuelles et corporatives aussi. Pardon pour l'orgueil, Jésus. Pardon pour avoir cru que nous, on savait mieux. Merci pour la complémentarité des onctions, Seigneur. Merci pour ce feu qui brûle sur l'autel, ce feu qui vient toucher nos lèvres et qui vient purifier nos bouches. Et on renonce maintenant. On renonce à tout esprit de compétition. On renonce à vouloir avoir raison juste pour avoir raison. On renonce à l'orgueil. On renonce à vouloir se servir. On renonce à dévier de ta parole, même si ça nous paraît bizarre, même si ça nous met dans l'inconfort. On veut te suivre, Seigneur Jésus. On décide d'écouter ce que toi tu dis. Et rien d'autre, même si ça nous demande du courage. Même si ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. On veut être obéissant à ta voix. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui ont été obéissants jusqu'à présent, au milieu de nous et qui ont tenu. Merci parce qu'ils nous ont permis d'arriver jusque-là. Mais on ne veut pas se satisfaire de ça, on veut aller plus loin avec toi. On veut continuer cette œuvre de réconciliation pour porter encore plus de fruits, pour ta gloire. Merci de nous offrir cette opportunité de nous repentir, Seigneur, parce que c'est que ça qui est important. Parce que c'est toi qui dois vivre au travers de nous. Nous, on doit être petit devant toi, diminué devant toi, pour que toi, Jésus, tu sois glorifié. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail de réconciliation profonde. Ce travail de restauration, de rédemption. C'est ton esprit qui le fait. Seigneur, viens nous montrer ce pourquoi on doit encore plaider coupable ce matin. On ne veut pas quitter ce lieu sans avoir fait le travail complètement, là où tu veux faire ce travail en nous. On veut prendre ce temps, on te confie ce temps, Seigneur, pour que ton esprit puisse nous montrer, individuellement aussi, ce pourquoi on doit plaider coupable. Qu'est-ce qui doit dégager maintenant de nos vies ? Ça a trop duré. Ça nous a fait trop souffrir. Ça nous a trop emporté de ci, de là, dans la confusion. On veut mettre cet ennemi sous nos pieds ce matin. Montre-nous, Jésus.
Merci pour ce temps tellement important pour chacun de nous, pour l'église Josué, Zacharie 3. Tu veux restaurer l'âme, chacun de nous, mais aussi corporativement, l'âme collective en profondeur. Il y a une restauration de l'âme collective, l'âme corporative de l'église Josué. Et dans Tu es la vérité, Seigneur. Tu sais les blessures profondes de cette âme, Josué. Et aussi celles de chacun de nous, dans notre marche, dans cette église. Alors, Seigneur, il y a cette œuvre de guérison, de libérer le pardon. Seigneur, nous... Alors, Julie, tu peux intervenir pour compléter ou quoi, mais Seigneur, on veut... On choisit, chacun de nous, on a certainement été blessé par des onctions autres que celles que nous on porte de manière dominante, mais qui nous ont heurtés, blessés. Parce que parfois ces onctions n'étaient pas mûres encore ou étaient en gestation et on peut être blessé ou pas équilibré, vous voyez. Et Seigneur, on décide ce matin de pardonner à ces onctions. Ça peut être des onctions prophétiques qui nous ont heurtés, blessés, parce que c'était acéré, c'était dur, ça manquait peut-être d'amour, enfin tout ça. Vous voyez, ce que les onctions prophétiques pas mûres, ça peut vraiment être blessant. Et puis que nous, les onctions prophétiques, on demande pardon aussi si on a blessé, si on a heurté, si on a dit les choses sans l'amour, avec pas l'équilibre amour-vérité dans la grâce. On demande pardon aussi. Et on libère le pardon. Et puis, il y a les onctions pastorales. Et parfois, cette église a été comme en manque de soins pastoraux. Il y a des brebis qui avaient besoin de soins pastoraux et puis il n'y avait pas, ou c'était pas disponible, ou ça a été dévié à des fins personnelles aussi, de recherche de ministère, tout ça. Et, Seigneur, pardon. Pardon pour ces soins pastoraux absents ou dispensés sans le vrai cœur du berger, avec des mauvaises motivations, des motivations mélangées, recherche d'identité, recherche de place, tout ça, et tout ce mélange. Pardon, Seigneur, on a blessé des brebis, on a blessé des personnes qui voulaient accéder à la vie et puis qui ont été rebutées pardon, Seigneur, pour tout ça. On te demande pardon en tant qu'Église. Et puis, Seigneur, il y a cette onction évangéliste. Et c'est précieux. Et puis, on a pu être blessé. On décide de pardonner aussi à ces onctions évangélistes, parfois déséquilibrées. Où c'était, voilà, pas équilibré. Et puis, ça a pu nous heurter aussi. Ou qui agissait en cavalier seul, ou voilà, ou pas vraiment dans le corps. Et alors on choisit de pardonner aussi à ces onctions évangélistes. Le cœur était là, mais ce n'était pas équilibré, pas bien placé, pas articulé avec le reste du corps. Et on demande pardon aussi pour l'incompréhension que les autres onctions ont pu avoir, des cœurs d'évangélistes qui vibraient pour l'extérieur, et puis nous on était sur d'autres trucs, d'autres focus, et on ne comprenait pas. Et on n'acceptait pas et on ne comprenait pas le fardeau des évangélistes. Alors on demande pardon aussi aux évangélistes, aux onctions évangélistes qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas soutenu. Pardon Seigneur. Et puis Seigneur, il y a les onctions d'enseignement et on décide de pardonner pour les enseignements qui ont pu nous heurter, nous blesser. Aussi parce que peut-être ça a pu nous blesser personnellement ou ça a pu blesser le corps parce que c'était pas adapté ou c'était voilà ou pas équilibré dans le passé de toute cette église, Seigneur. Alors, on choisit aussi de libérer le pardon pour tout ce qui a pu blesser individuellement, collectivement. Et puis, en tant qu'enseignant aussi, ben, on demande pardon pour les enseignements qui avait l'air bien, mais qui n'était pas exactement la nourriture dont le corps avait besoin à ce moment précis. Ça peut arriver. En tant qu'enseignant, on est à côté de la plaque. Alors on demande aussi pardon à l'Église pour les messages ou les nourritures qui avaient l'air bien, mais qui n'étaient pas adaptées exactement pour le moment, pour les besoins de ce corps, qui n'étaient pas alignés avec le Saint-Esprit complètement ou en partie seulement. On demande pardon, Seigneur. Et puis, il y a l'onction apostolique. Et alors, Seigneur, on demande pardon pour peut-être la méconnaissance ou l'incompréhension de l'onction apostolique. Et puis, voilà, si des apôtres ont blessé aussi l'Église, ben, on choisit de pardonner. Oui. Et Seigneur, on accueille cette profonde réconciliation qui fait que les onctions peuvent librement travailler ensemble, sans peur, sans gêne, sans tout ça. Et puis aussi, il y a une autre dimension, c'est que on te demande pardon, Seigneur, pour les étiquettes qu'on s'est posées sur soi et sur les autres, en les étiquetant, en les enfermant. Ah ben lui, il est point. Il est pasteur, il est évangéliste, etc. Et rien d'autre. Et soi-même aussi. Soi-même, parfois, on se met des étiquettes. Mais je me prends comme exemple, je te demande pardon, Seigneur, moi, voilà, de me dire, moi, je suis prophétique et pas du tout pastoral. Et puis, Seigneur dit, non, tu fais ce que tu veux que je fasse quand moi, je veux que tu agisses. Et Seigneur, on veut faire éclater les limites. Les étiquettes restrictives, bien sûr qu'on a des dominantes, bien sûr, mais chacun de nous, vraiment il faut qu'on éclate nos petites limites, chacun de nous, Jésus habite en nous dans les cinq ministères, et ponctuellement, ou voilà, il peut faire d'un prophète, un évangéliste, ponctuellement, ou faire donner un enseignement à un pasteur, etc., qu'on fasse éclater nos limites, nos étiquettes personnelles qu'on se met dessus. Parce que tu es beaucoup, beaucoup plus grand et oui, Seigneur, il y a des dominantes, bien sûr, et on est chacun différent, mais voilà, tu es souverain et qu'on limite pas l'action de Saint-Esprit en disant « Ah non, moi je peux pas aller vers un tel parce que je suis pas évangéliste, point barre. » Ben non, Seigneur, tu voilà, qu'on soit souple dans ta main, qu'on se mette pas des limites, qu'on soit souple dans ta main. Et Seigneur, ce à quoi tu aspires, c'est une église Josué avec des membres tellement, tellement dépendants de ton esprit, qui agissent dans la complémentarité, dans une fluidité, sans aucune recherche de place, d'identité, de reconnaissance, de tout ça. mais dans dans l'esprit. Un dans l'esprit, dans la culture de l'honneur. Et c'est tellement extraordinairement beau. Alors merci Seigneur. On accepte ces vêtements de louange, ces vêtements de gloire, ces vêtements que tu vas mettre sur Josué, que tu es en train de mettre sur Josué, comme tu le fais dans Zacharie 3.
Amen. Amen. Merci Anne. Merci beaucoup. Merci Jésus pour ce temps. On veut le sceller dans ton sang. Que ce ne soit pas volé, mais que ce soit multiplié. Au nom de Jésus. Amen.